vous propose juste d'écouter, peut-être de fermer les yeux, mais surtout d'écouter. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Les sept chandeliers sont les sept églises. »
Ça va comme ça, oui. Ça va? Vous entendez? Le micro marche? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà. D'accord. Alors, l'Apocalypse. Pourquoi moi? pourquoi j'apporte un enseignement sur l'Apocalypse. Je vous révèle le secret. Ça fait 8 ans que je suis secrétaire général. J'ai manqué une seule journée de réunion d'équipe avec les sires. Et c'était ce jour-là qu'ils avaient choisi de faire l'Apocalypse au camp à fond la forme. Et qu'ils ont décidé que ce serait moi qui apporte ces messages. Donc, voilà le secret. J'ai un petit peu peur, quand même, parce que, en 6 matinées, on m'a généreusement accordé 40 minutes, et déjà le premier jour, on a déjà mangé 8 minutes de ces 40 minutes, et ça ne va pas en s'améliorant, non, ça si. En plus, c'est vraiment, et vous le savez, un livre difficile. Je vous invite, pour essayer de vous concentrer d'ailleurs, à suivre les notes à partir de la page 12 dans le cahier. Parfois, en notant des choses, on se concentre. Et c'est d'autant plus difficile, j'irai dans ce sens, que je ne pourrai pas, au cours de la semaine, regarder tout le texte. Donc, j'ai peur qu'il y ait des déçus. Moi, je voulais vraiment savoir qui était cette femme avec des étoiles autour de la tête ou je ne sais pas quoi. Ouais, d'accord. Donc, si vous voulez savoir, il faut demander à Yo. Moi, je suis à votre disposition au moment des repas, autre moment. Mais je n'ai pas toutes les réponses. Vous en doutez bien. Mais on peut en parler ensemble. Mais ce que je voulais surtout faire, c'est dégager les grandes lignes de ce livre. C'est d'autant plus difficile que pour se concentrer, il faut vraiment s'accrocher. Et puis, le sujet ne se prête pas, je dirais, à faire des petites blagues au milieu pour réveiller tout le monde, comme on peut faire assez facilement dans une prédication. Donc voilà, toutes les difficultés de cette étude. Mais malgré tout, on va essayer de s'attaquer à cette étude. Et avant d'ouvrir la parole, je voulais donc dire 2 choses. D'abord, quelques mots sur les principes d'interprétation de l'Apocalypse. D'abord, il faut dire que ce n'est pas vraiment le livre des catastrophes, même si on peut le penser. C'est d'abord et surtout un livre pour consoler et pour encourager les chrétiens qui étaient à cette époque-là pas mal persécutés, méprisés, etc. Donc c'est le livre de... pas des catastrophes, mais de l'encouragement. 2e chose, j'ai compté, il y a 405 versets. Et dans ces 405 versets, il y a 285 citations de l'Ancien Testament. Waouh ! Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas bien l'Ancien Testament, il y a des possibilités que vous ayez du mal à comprendre l'Apocalypse. Parce qu'il y a tellement de références à l'Ancien Testament. 285 sur 405 versets. 3e chose, le mot Apocalypse veut dire littéralement dévoilement. Donc on enlève le voile. Dans d'autres langues, comme en anglais, on dit révélation, parce qu'on révèle, on dévoile les choses. Et il s'est développé du temps de Jésus, même avant le temps de Jésus, tout un genre littéraire qui s'appelle apocalyptique. Donc c'est clair, il y a certains prophètes de l'Ancien Testament qui ont ce style-là. Donc il faut savoir l'interpréter. Il ne faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre, parce que... le style apocalyptique utilise énormément de symboles. Le style est truffé de symbolisme. Un exemple clair sur lequel on va souvent revenir, c'est le chiffre 7. On trouve le chiffre 7 partout. Pourquoi ? Parce que dans le genre littéraire apocalyptique, 7 représente la totalité. C'est la perfection. Donc, chaque fois qu'on voit le chiffre 7, il faut penser, là, on est en train de parler universel, perfection, totalité. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre. Je m'explique. Je pense qu'il faut interpréter la Bible de façon littérale. Mais cela veut dire, et c'est la phrase choc de ce matin, l'interprétation littérale veut dire l'interprétation littéraire. Donc il faut tenir compte de différents genres littéraires pour pouvoir le lire et le comprendre de façon littérale. Donc, littéral, ça veut dire que toute lettre est inspirée de Dieu. Mais le genre apocalyptique demande donc que l'on prenne en compte tout le symbolisme. Et la dernière chose que je voulais dire ce matin sur les principes d'interprétation, c'est qu'il y a trois grandes écoles pour interpréter l'Apocalypse. Une école voit uniquement une description du vécu des chrétiens au 1er siècle, quand Jean a écrit ce livre. Et cela, si vous voulez un nom un peu savant, il y a des gens qui disent que c'est l'approche historiste, si on veut, ou historique, parce que c'est dans le passé. Il y en a d'autres qui disent ça concerne toutes les églises à tous les moments, donc même nous aujourd'hui, si vous voulez un terme un peu savant pour ça, c'est l'approche prétériste, donc c'est présent. Hein. Et puis, la troisième chose, c'est, troisième interprétation, ça ne concerne que les événements futurs, donc c'est l'approche futuriste. À partir de ces schémas, on peut aller dans différentes directions. Mais moi, je vous propose plutôt de dire, il y a un peu de vrai dans les trois, parce que c'est vrai que Jean a écrit aux églises persécutées à l'époque, mais ces principes sont vrais pour toutes les églises à tout moment. Et troisièmement, la victoire finale, même acquise à la croix, n'est pas, disons, totalement réalisé encore dans notre vécu. Le royaume de Dieu est là, mais le jugement final n'a pas eu lieu, donc il y a un côté futur en même temps. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas, disons, mon approche tout au long de la semaine, c'est une approche bien jébusienne, c'est d'observer le texte et d'abord d'essayer de voir ce qui est marqué dans le texte plutôt que de le forcer dans une sorte de schéma qui nous fait penser uniquement au futur ou uniquement au passé. Donc on va essayer de voir ce qui est dans le texte. Deuxième chose, c'est la structure du livre. Et là, si vous prenez votre petit livret et vous cherchez les pages 10 et 11, vous allez voir un découpage assez classique. Ça ne vient pas de moi, bon, c'est assez classique, hein, donc vous pouvez le trouver dans un certain nombre de livres, où le terme employé, c'est Apocalypse, les sept septénaires. Donc, si vous cherchez le sens du mot septénaire, ça veut dire qu'il contient sept. Donc, ça veut dire qu'il y a sept fois sept tout le temps. Je vous laisse regarder ça, pas maintenant, mais plus tard, mais simplement pour dire que d'abord, donc aujourd'hui, on va faire uniquement le premier chapitre, que vous avez entendu. Demain, on regardera les sept églises, donc la première ligne. Ensuite, vous allez voir qu'il y a une série de sept sceaux, de sept trompettes, de sept signes, de sept coupes de la colère de Dieu. Hein, je prends la colonne de gauche qui est grisée. Hein. Ensuite, il y a sept paroles sur Babylone et on peut dire l'aboutissement de l'histoire du salut en sept visions. Bon, on peut contester ce découpage de tel ou tel verset. Hein. Je ne suis pas là pour défendre le découpage, mais ça nous aide à voir toute cette structure tout le temps autour de ce terme sept qui représente, comme j'ai dit, la perfection, la totalité, l'universalité. Alors, regardons le texte. Caillou l'a lu. Je suis très content de cela. On va essayer tout au long de la semaine de lire ce livre. À l'époque, dans l'Antiquité, les gens lisaient à haute voix. Même souvent, quand les gens étaient tout seuls, ils lisaient à haute voix. Ils n'avaient pas cette habitude que nous avons aujourd'hui de lire dans la tête. Donc c'est bien de lire à haute voix et de comprendre. Alors qu'est-ce que l'on voit, versets 1 et 3? L'entrée en matière, c'est les premiers mots, révélation de Jésus-Christ. Que l'on peut comprendre de deux façons. Que l'on révèle Jésus, qui est un des grands thèmes d'ailleurs de l'Apocalypse. Ou bien, ce qui est aussi le cas, que Dieu a donné une révélation à Jésus, qu'il a fait passer à son serviteur ou à ses serviteurs, et surtout son serviteur Jean, par l'intermédiaire d'un ange. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il va rappeler, ou il va enseigner ce qui va arriver bientôt. Ce qui va arriver bientôt. Sachant que, selon 2 Pierre 3, un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans c'est comme un jour. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire bientôt. Heureux donc celui qui lit et qui entend ces paroles et qui les garde. Encore un thème qui traverse l'Apocalypse, l'idée de garder, de veiller, de persévérer jusqu'au bout. Hein? Donc j'ai bien insisté tout à l'heure, écrit dans un moment de persécution, un moment où les premiers chrétiens peuvent dire « mais qu'est-ce qui nous arrive ?» On avait pensé trouver la vérité, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, aimer Dieu, on est là pour le bien des autres, et puis tout d'un coup ils sont persécutés à la place. Surprise. Et ce livre c'est pour dire « c'est normal, vous êtes à contre-courant dans ce monde, mais Dieu est plus grand. » Mais veillez et persévérez, même si c'est difficile. On a de la chance de pouvoir nous mettre debout et chanter avec un PowerPoint et des beaux chants. Tout au long de l'histoire, il y a des chrétiens qui sont restés des années, des années et des années en prison, qui n'avaient pas cette possibilité-là, et qui ont tenu ferme avec le Seigneur. La fameuse Marie Durand. Résister. Donc, Aigues-Mortes. Les salutations ensuite, parce que c'est quand même une sorte de lettre. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Pourquoi 7? Il y en avait plus. Ah, pas parce qu'ils représentaient en tant que 7 toutes les églises en Asie. Et donc, par contre, on peut dire toutes les églises, même aujourd'hui. L'église, toutes les églises du monde, l'église universelle. Donc il y a une lettre écrite aux églises, je vais enlever le mot 7 pour le moment, que l'on comprenne que c'est pour nous aussi, et cette lettre est écrite de la part de la Trinité. D'abord, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Attention, dans ce texte-là, le mot « vient » ne veut pas dire la parousie, le retour du Seigneur qui vient dans ce sens-là, ça c'est plus tard, mais qui vient dans le sens où Dieu est éternel, qui était, qui est, et dans dans les temps qui arrivent. Donc Dieu, c'est l'éternel. Dieu, dans un sens, est en dehors du temps. Pourtant, ce n'est pas facile à comprendre. Hein. Donc, j'ai lu, il y a quelques mois, un philosophe qui essaie de découvrir une définition du temps. La seule définition qu'il a trouvée, c'est le temps, c'est ce qui empêche tous les événements d'arriver en même temps. C'est très profond. Mais Dieu est en dehors du temps. Donc il était, il est, il vient. Il ne change pas. Selon Jacques 1, 17, on dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y avait pas de montre à l'époque, c'était l'ombre donc, qu'on voyait passer avec le soleil qui tournait dans le ciel. Donc, il n'y a pas d'ombre de variation, Jacques 1, verset 17, dans le Père. Ensuite, cette lettre est écrite de la part des 7 esprits. Waouh, encore 7. Le Saint-Esprit a 7 esprits. Non, c'est encore une façon symbolique de dire que c'est une expression unique, inhabituelle, pour parler de la perfection du Saint-Esprit. Certains voient une allusion à Ésaïe 11, verset 2, où on dit que l'Esprit, est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, et qui ne juge point selon l'apparence. Donc, cet aspect. En tout cas, c'est une allusion ici au Saint-Esprit. Et troisièmement, puisque j'ai parlé de la Trinité, de Jésus. La part de Jésus-Christ, verset 5, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Donc, qui est ce Jésus? Comme je viens de dire, le témoin. Il a dit, je suis venu dans le monde pour témoigner. Dans Jean 3 et le verset 13, on peut même dire le verset 11, Jean chapitre 3, c'est à la fin du dialogue avec Nicodème, il dit « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Verset 12. « Vous ne croyez pas quand je vais parler des choses terrestres ? Alors, comment croirez-vous quand je vais vous parler des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Donc cela veut dire que le Fils de l'homme, en s'incarnant et en venant sur la terre, était témoin de d'autres réalités spirituelles et célestes. Donc il est descendu pour lui dire. Nous, on ne peut pas monter pour voir, il est descendu pour nous le dire. Donc il est témoin de cette réalité éternelle, spirituelle, céleste. Et Jésus l'a redit dans Jean 18, verset 37, en parlant de témoins. Quand il a été interrogé par Pilate, et Pilate lui dit, Jean 18, verset 37, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, et je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc Jésus est témoin, fidèle. Ensuite, le premier-né d'entre les morts, c'est la résurrection. Il est le prince des rois de la terre, donc selon différentes traductions de la Bible, le chef ou le souverain, le Seigneur. Qu'a-t-il fait pour nous ? Les versets 5 et 6, Jean ne peut pas s'empêcher d'éclater en louange. Et là, nous avons, dès le début de l'Apocalypse, l'Évangile. Celui qui nous aime, Dieu nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par sa mort à la croix, nous avons le pardon de nos péchés. Pour former un royaume, ce n'est pas géographique, mais on reconnaît qu'il y a un roi, Jésus notre roi. Et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, pas dans le sens d'offrir des sacrifices pour le péché, parce que c'est fait, une fois pour toutes, mais d'autres sacrifices, des sacrifices de louange. Parce que vous savez que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, après avoir offert en sacrifice des animaux pour le péché, ils avaient l'habitude d'offrir d'autres sacrifices d'action de grâce ou de remerciement. Et selon Hébreux 13, 15 à 16, c'est le sacrifice de louange de l'œuvre qui confesse son nom, c'est la libéralité et la bienfaisance. Donc quand vous mettez de l'argent dans la boîte d'offrande de l'Église, c'est autant un sacrifice. Et même dans Romains 12, verset 1, c'est le sacrifice de notre vie, donc le sacrifice de notre corps, notre vie que l'on offre à Dieu. Voilà, donc c'est vraiment l'Évangile au début de l'Apocalypse. Et toutes les sectes, Jean Témoin de Jéhovah, qui parlent tellement de l'Apocalypse, essayer d'interpréter différents versets, ramener au début de l'Apocalypse pour dire, voilà, c'est ça l'important. C'est l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle. Et puis, après Jésus, il revient. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Et là encore, dans ce seul verset, verset 7, nous avons deux allusion de citation de l'Ancien Testament. Vous pouvez noter Daniel 7 et le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et puis un deuxième, dans Zacharie 12 et le verset 10, en ce qui concerne le mot percé ou transpercé. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Donc, on peut imaginer une famille qui perd un enfant, un premier-né. Hein. Le premier-né, c'est quand même quelque chose. Hein. Père de famille, et même si on aime tous ses enfants, c'est pas quelque part le premier-né, c'est la première fois que sa femme est à la maternité, et puis voilà, c'est impressionnant d'assister à, à l'accouchement. Et voilà, on perd le premier-né et toutes les tribus de la terre vont se lamenter comme si c'était un premier-né qui meurt. Donc Jésus revient et cela sera donc une cause de réjouissance tout en étant un moment comment on peut dire d'un grand sérieux. C'est le moment du jugement. Il dit amen, amen, je veux que ce soit le cas. Comment comprendre? Moi, je comprends de la façon suivante. Je ne veux pas banaliser, mais moi, j'aime le foot. Ce n'est pas un secret, tout le monde sait. Et quand son équipe préférée, en l'occurrence, l'AS Nancy-Lorraine, j'ai passé 20 ans à Nancy, c'est de la foi. Non, quand l'équipe marque, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on crie. Est-ce que pendant ce moment-là, on dit, oh, le pauvre gardien de l'équipe adverse, comment il ressent les choses à ce moment-là? Mais personne. Et c'est un peu ça. Bon, je ne veux pas banaliser l'illustration, vous comprenez. On est tellement content que Jésus revient, qu'il sera le juge, qu'il va récompenser ceux qui lui sont fidèles, que on sera avec lui pour l'éternité, que même s'il y a le jugement, qu'il y aura des perdus, on sera tellement content que finalement le nom de l'Éternel soit reconnu et que sa gloire reconnue, que c'est ça le sentiment principal que l'on aura à ce moment-là. Et juste pour terminer la partie sur Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc on revient quelque part au Père, mais alpha et oméga est également utilisé donc dans l'Apocalypse 22 pour le Fils, la première lettre, dernière lettre de l'alphabet grec, pour dire que Jésus sera tout en tout. Du début jusqu'à la fin. Rien n'échappera à sa seigneurie. Continuons plus loin. Donc la première vision. Maintenant, c'est la première vision à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Donc, c'est une petite île grecque au large de ce qu'on appelle aujourd'hui les côtes turques. Soit parti toujours de la Grèce, Patmos, et il fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Deux interprétations, certains pensent que c'est le dimanche, donc le jour du Seigneur, c'est possible. D'autres voient une allusion à ce terme jour du Seigneur que l'on retrouve toujours dans les prophètes de l'Ancien Testament, pour dire c'est le jour du jugement, le jour où Dieu intervient. Personnellement, je préfère la deuxième interprétation. Et Jean doit écrire aux sept églises, et cette fois-ci il les nomme, au verset 11, on y reviendra demain. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une vision. Il entend aussi une voix qui lui parle. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sept chandeliers, et au milieu de ces sept chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Si vous avez bien retenu tout à l'heure le verset dans Daniel, qui a parlé aussi de fils d'homme, on voit qu'il s'agit du Messie de Jésus. Et il y a toute une description donc, de cet homme. Et c'est là où on rentre vraiment dans le langage apocalyptique. Comment comprendre au pied de la lettre? Est-ce que quand on imagine Jésus, on voit ses cheveux blancs comme la neige? Est-ce qu'il avait des cheveux comme ça sur la terre? Je ne pense pas. Est-ce que maintenant, c'est à prendre au pied de la lettre? Pourquoi? C'est blanc comme la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds comme du bronze ardent, comme embrasé dans une fournaise. Sa voix comme le bruit de grandes eaux. En fait, si vous avez une Bible d'étude, vous pouvez chercher plein de références dans l'Ancien Testament par rapport au Messie qui doit venir, par rapport même à la divinité de Dieu, et vous allez voir qu'on reprend un certain nombre de ces termes. Je vais en parler d'une seule. C'est le verset 11. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Évidemment, c'est difficile d'imaginer Jésus avec une épée qui lui sort de la bouche. Hein. Mais l'épée, c'est quoi? D'abord, Ésaïe 49, verset 2, un des chants du serviteur hein, qui part du Messie. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. C'est déjà l'accomplissement d'un verset de l'Ancien Testament qui parlait du Messie. Dans Hébreux 4, verset 12, on a encore un verset qui donne la clé de l'interprétation. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu qui pénètre vraiment en nous. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Quand il parle, c'est comme une épée qui nous transperce. Même pour faire la division entre l'âme et l'esprit, donc ce qui est le plus profond en nous, il nous aide à comprendre qui nous sommes et pourquoi. Mais ce qui est intéressant dans cela, et la clé est donnée au verset 12, au verset 20, le mystère des sept étoiles que tu as vues et les sept chandeliers, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc d'abord, le chandelier représente l'église. Donc, tout le temps dans l'Apocalypse, il faut faire cela, ce mot représente autre chose. Donc le chandelier représente une église. Ensuite, les sept étoiles sont les anges de cette église. Est-ce que cela veut dire que chaque église a son ange? C'est possible. Il y a certains anges qui ont beaucoup à faire, hein, c'est l'impression. Dans certaines églises, mais bon. Bon, enfin, on ne va pas pousser plus loin que ça. Mais ce qui est important, c'est le verset 12. Je reviens en arrière. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, ce qui est important, c'est qu'au milieu de chaque église et des églises, il y a le Seigneur. Nos églises ne sont pas simplement un regroupement sociologique de gens qui aiment se retrouver pour faire certaines choses ensemble. Nos églises ne sont pas uniquement des associations, même si en France, on est appelé à créer des associations 1905, etc. Nos églises sont des réalités éternelles, des parcelles du peuple de Dieu qui sont réunies sur la terre et Jésus est au milieu d'eux. Et même si parfois, ce que l'on fait dans nos églises, la personne qui regarde l'extérieur peut dire que c'est un peu bête ce que l'on fait, n'ont pas toujours tort, mais nous sommes quand même le peuple de Dieu et Jésus est au milieu de nous. Très important, c'est le grand message donc, dès le début de l'Apocalypse. Jésus est vainqueur. Jean, quand il voit ça, verset 17, il tombe comme mort. Et Jésus pose sur lui sa main droite en disant, ne crains point. L'empereur à Rome, c'est un petit bonhomme qui va vivre quelques années, c'est tout. Michel Onfray, c'est rien. Oui, il n'est pas empereur. Il s'y croit. Mais bon, c'est les grandes athées en France. Enfin, nous, on fait partie du peuple de Dieu. Et on doit nous émerveiller de cela. Cette perspective, notre solidarité avec Jésus, change tout dans notre compréhension des choses. Certes, on vit dans notre corps. Nos gébus, nos églises sont imparfaites. Mais nous sommes autre chose que tout autre groupement, toute autre association, parce que nous sommes le peuple de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Et cela va nous aider à avoir de l'audace et à persévérer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et c'est ça le grand message de l'Apocalypse. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que déjà ce premier chapitre ouvre de grandes perspectives. Nous le savons par ailleurs que tu es avec nous, parce que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et encore ce chapitre qui nous rappelle que tu es parmi nous, au milieu des chandeliers, et que nous n'avons pas à craindre. Seigneur, chasse de nous toute crainte, parce que tu es là, et parce que nous t'appartenons par ta grâce, nous ne le méritons pas. Merci pour les 5 jours qui sont devant nous. Nous allons pouvoir encore approfondir un peu ce livre. Aide-nous à comprendre, aide-nous à nous concentrer pour comprendre le vrai message. Nous avons besoin de persévérer. Et Seigneur, tu vas être avec nous pour nous aider à le faire. Nous te remercions parce que c'est ce grand message de consolation et d'encouragement que tu nous donnes ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je profite puisque j'ai la parole. Juste une petite annonce, parce que la personne qui fait l'annonce n'a pas ça. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai envoyé un mail, mais peut-être vous ne l'avez pas reçu. Donc Caillou, Jean-Mathieu, Victor, Timothée, Stella, Cindy et Jessica. Si vous pouvez me voir juste tout de suite à la fin de cette réunion, voilà, je vous expliquerai pourquoi.